Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace. Il y a un peu plus d'un an, c'était le 14 mai 2009 exactement, le satellite Herschel prenait la route de l'espace en compagnie du satellite Planck. Et un peu plus d'un an après, c'est important de faire le point scientifique. Marc Sauvage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au SAP, un service d'astrophysique CEA, et vous êtes aussi impliqué dans les programmes de temps garanti sur l'étude du milieu interstellaire dans les galaxies proches. Ma première question est simple, c'est Herschel, comment ça va? Ça marche?
Herschel, ça marche bien. Je dirais qu'on ne peut pas dire qu'Herschel soit un long fleuve tranquille, parce que, enfin, moi qui suis impliqué dans le suivi de la santé des instruments, j'ai pu voir quelques alertes dans le fonctionnement d'Herschel, mais enfin, il fonctionne très bien. Il nous tient réveillés par des petites alertes régulièrement, qui sont sans doute dues à des impacts de rayons cosmiques dans des parties d'électronique un peu sensibles. Donc, oui, je dirais que Herschel va bien, mais il faut pas dormir, il faut rester éveillé, parce que de temps en temps... ça devient un petit peu plus chaud.
Alors, au début, il y a eu quand même quelques alertes. Hein. Il y a un instrument...
Il y a eu une très grosse alerte. C'est à un moment la quasi-perte de l'instrument de spectroscopie qui s'est arrêté très brutalement. On pense, suite à un impact de rayon cosmique dans une partie de mémoire qui n'était pas suffisamment résistante à ce type d'impact et qui, malheureusement, servait à héberger des logiciels de bord très importants.
Comme vous avez fait.
Et donc là, ben, il nous a fallu 6 mois pour vraiment diagnostiquer proprement la panne, et puis changer un petit peu, même beaucoup, le logiciel de bord en question pour le rendre moins sensible à ce genre d'interruption momentanée de ses programmes, et redémarrer. Alors, ce qui est dommage, c'est que sur cet instrument-là en particulier, il y a donc un boîtier d'électronique qui a été endommagé par l'arrêt brutal de l'instrument, ce qui fait que ce qu'on appelle la voie principale de fonctionnement de cet instrument est maintenant hors d'usage et on utilise la voie de secours, qui est identique. Donc il n'y a pas de dégradation de performance. En fait, les performances de HiFi sont tout à fait spectaculaires. Par contre, il n'y a plus de voie de secours. Donc en théorie, d'après les essais qui ont pu être faits, le même problème ne devrait pas se reproduire. Simplement, sur un satellite aussi complexe qu'Herschel, l'expérience montre que de nouveaux problèmes peuvent survenir. Et donc là, on travaille sans filet maintenant sur cet instrument.
Ce sont des engins fragiles, entre guillemets, où finalement c'est le milieu lui-même, à chaque fois qu'on crée un nouvel observatoire, mais qui est hostile. Et puis, il y a tellement de mécanismes, tellement de pièces, tellement de points sensibles que c'est normal que ça arrive.
Alors, je dirais que ce n'est pas forcément des instruments qui sont fragiles au sens mécanique du terme. Ils sont juste très complexes. Donc, on ne peut pas les manipuler n'importe comment. Par exemple, pour éteindre un instrument, il n'y a pas un petit interrupteur qui dirait « Bon, allez, je coupe le courant et tout est bon ». Il y a une procédure extrêmement longue qui permet de protéger les instruments des différents courants transitoires qui vont s'établir dans les circuits et les capacités parasites qui existent par-ci, par-là et dont on ne peut pas se débarrasser. Donc, il y a une certaine, je dirais pas une fragilité mécanique, mais une fragilité électrique inhérente à ces machines complexes. Et on est dans un environnement assez hostile, puisqu'on est sous un bombardement constant de particules, soit d'origine solaire, soit extrasolaire. Il faut voir que sur les détecteurs, simplement, qui représentent des pièces qui font quelques centimètres carrés, on a plus d'un événement par seconde. Donc on a des taux de bombardement par des particules cosmiques chargées importants, et on imagine bien qu'une électronique, il faut la traiter d'une façon particulière pour la rendre immune à un bombardement tel. Donc c'est ça la fragilité. D'ailleurs, l'agence spatiale a un terme que moi j'aime beaucoup pour qualifier ce type d'événement, qu'elle appelle single event upset, qui veut strictement rien dire, c'est juste dire un événement particulier perturbant. Donc, mais c'est un joli terme. En plus, on a l'impression d'avoir avancé un petit peu dans la connaissance, alors qu'en fait, on n'a simplement rien dit. Mais ça dit bien qu'il y a une catégorie comme ça d'événements dont on ne peut pas se prémunir totalement, qui sont les impacts de particules cosmiques qui vont taper des endroits imprévus de l'instrument. Et c'est impossible de tester des machines complexes pour tout ce type d'événement.
Alors, ça marche, et ça marche d'autant mieux que des résultats sortent. Il y en a eu qui ont été présentés donc un tout petit peu au début de l'été, un petit peu avant le début de l'été. Je veux dire, en tant qu'observateur, je reste absolument fasciné par la quantité de papiers scientifiques qui ont été présentés, puisqu'on en a recensé 152 au bout de à peine un an d'observation. Alors, on sait que le champ d'investigation d'Herschel est très large, hein, puisque ça va des étoiles jusqu'aux galaxies lointaines et au milieu interstellaire dans ces galaxies-là. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris par la quantité de données déjà analysées par vos collègues ?
Je dirais surpris, c'est pas forcément le mot que j'emploierais. Moi, je suis fasciné par ça. C'est-à-dire que moi je suis très en amont dans l'instrument, c'est-à-dire que vraiment je participe à ce qui s'appelle l'étalonnage de l'instrument, donc je le vois fonctionner et je vois la quantité de données brutes qu'il produit. Et je sais que cette quantité est énorme parce qu'on observe de façon très efficace, donc on fait vraiment beaucoup d'observations par jour. Et je suis fasciné de voir qu'aujourd'hui avec Herschel, on a finalement une maturité scientifique et technique qui nous permet véritablement, alors que ça fait que un an que ce satellite fonctionne, eh bien de faire désormais déjà de la science et en grande quantité et sur des sujets très très vastes. Je vois la conférence qu'on a faite à l'ESTEC où on était 400 chercheurs, c'est une énorme conférence, c'est typiquement, on voit ce nombre de participants à des conférences, dans les grandes conférences de l'Union Astronomique Internationale ou des choses comme ça. Et là, on voyait une communauté entière qui était déjà active à réfléchir à qu'est-ce que ces données étaient en train de lui apprendre, analyser ces nouvelles informations, essayer de les faire rentrer dans les modèles ou au contraire de modifier les modèles. Donc moi, je trouve ça extrêmement excitant. Enfin, je pense que si j'étais un peu plus extérieur, je serais surpris. Étant en interne, je trouve ça fascinant et excitant d'être à ce moment-là de cette expérience.
Alors, est-ce que ça a un sens aujourd'hui de faire un premier résumé des observations, je ne vais pas dire découvertes, mais en tout cas des observations de Herschel, en sachant qu'il s'intéresse à la fois aux étoiles, au milieu interstellaire, au système solaire, aux galaxies lointaines. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs éléments qui aujourd'hui saillent, comme on dit, apparaissent comme étant des premiers résultats qui vont compter pour le futur ?
Alors, moi, je trouve qu'effectivement, bon, on ne peut pas parler d'un bilan parce qu'on n'a pas fini ce qui s'appelait les programmes de temps garanti et on n'a pas commencé tout le programme, je dirais, plus général qui, lui, est contribué par les observateurs du monde entier. Donc, pour l'instant, ce qu'on a exécuté, c'est ce à quoi on a pensé depuis 10 ou 15 ans qu'on réfléchit à faire Herschel. Donc, là, ce que je vois, moi, c'est vraiment une confirmation des... Aujourd'hui, ce que je vois, c'est une confirmation des espoirs qu'on avait mis dans cette expérience. Déjà, le domaine d'Herschel, c'est donc ce domaine submillimétrique qui est entre 60 et 600 microns. Et c'est là que se situe le maximum de l'émission des poussières interstellaires. Elles ont une température qui fait que leur émission est maximum entre 100 et 200 microns. Et on n'a jamais pu observer de façon systématique l'univers à ce pic d'émission. Donc moi, je prends une métaphore qui peut être assez parlante, c'est se dire, voilà, on a un massif montagneux qui est de la taille de l'Himalaya ou quelque chose comme ça, qui est l'émission thermique de l'univers, donc de toutes ces phases froides, et jusqu'ici, on l'a observé de la base, soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire soit à courte longueur d'onde, soit à très grande longueur d'onde, mais toujours, on a toujours regardé depuis la base vers le haut en faisant ces extrapolations. Et maintenant, avec Herschel, on est au sommet et on voit l'ensemble du paysage. Et on voit à quel point des résultats qui nous semblaient contradictoires parfois, par exemple sur la façon dont l'émission des galaxies doit se comporter en fonction de leur activité de formation stellaire, il y avait des choses assez contradictoires qu'on avait du mal à recaler. On voit comment elles se connectent. Comment est-ce que, justement, le fait que... ça, c'est un résultat que je trouve très intéressant. Quand l'activité de formation stellaire augmente dans une galaxie, on a tendance à penser de façon assez intuitive qu'il va y avoir plus d'énergie libérée par ces étoiles. Et donc, la galaxie va être plus chaude. Et c'est ce qu'on voit, effectivement, à courte longueur d'onde. Mais ce n'est pas ce qu'on voit à grande longueur d'onde. À grande longueur d'onde, on voit plutôt des objets plus froids, quand bien même il serait plus actif. Et en fait, on est en train de voir que ces deux aspects nous parlent de deux régions différentes dans ces galaxies. Et c'est une fois arrivé au sommet, en regardant de part et d'autre, qu'on peut comprendre comment ces choses-là s'agencent, en reconstituant un espèce de scénario, en disant, bah oui, les galaxies qui sont très actives aujourd'hui, nécessairement, elles l'ont été moins par le passé. Donc elles ont des plus grands réservoirs de poussière disponibles, mais comme elles étaient moins actives, ces réservoirs sont froids. Donc en faisant ce genre de connexion qu'on ne peut faire qu'à partir du moment où on est tout en haut et on peut regarder de tous les côtés à la fois, eh bien on arrive à connecter des choses qui étaient jusqu'ici assez, finalement assez déconnectées, assez contradictoires parfois. Donc moi je vois vraiment, aujourd'hui plutôt qu'un bilan, ce que pourrait ressentir l'alpiniste qui est arrivé au sommet. C'est-à-dire il voit maintenant il commence à comprendre.
Il éprouve un peu le vertige.
Le vertige de l'altitude, le manque d'oxygène ou ce genre de choses.
Alors, il y a quelques images quand même qui nous ont frappés. Et d'ailleurs, elles sont sans doute à relier avec l'autre satellite donc, qui a été lancé en même temps qu'Herschel, Planck. Ce sont ces images qui ont été diffusées assez récemment et qui montrent dans la galaxie des filaments tout à fait extraordinaire qui semble s'échapper comme de la brume ou des embruns au-dessus du plan galactique et qui ressemble somme toute à des espèces de guirlandes dans lesquelles sont en train de naître ou de s'assembler des étoiles et on reste frappé par cette nouvelle vision à grande échelle justement d'une architecture stellaire. Est-ce que ça vous a frappé
Oui, ça tout à fait, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point cette structure filamentaire, elle est présente à grande échelle, on le voit dans ces images Planck qui sont des images de tout le ciel, donc de toute la galaxie, mais aussi à petite échelle, quand on utilise Herschel pour zoomer sur certaines régions de formation stellaire, on retrouve toujours cette structure filamentaire à toutes les échelles, donc elle est vraiment universelle. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'elle est un peu prévue par des modèles de turbulence interstellaire qui nous disent que sous l'effet de différentes forces comme la gravité, les champs électromagnétiques, les perturbations par les objets environnants, on va arriver non pas à des nuages qui auraient cette structure sphérique qu'on aime bien modéliser, mais plutôt des choses extrêmement complexes, fractales, filamentaires. Mais ce que je trouve qui est vraiment nouveau et que Herschel montre, c'est que c'est dans ces filaments que la formation stellaire va se passer. Donc, ce qu'on cherchait là aussi, pour l'instant, on n'a pas encore, je dirais, établi solidement ce résultat de façon statistique ou mathématique, mais ce qu'on cherchait, c'était à comprendre comment est-ce qu'on pouvait connecter, d'une part, le milieu interstellaire et sa structure et sa physique telle qu'on est capable de l'observer, et d'autre part, la fonction de masse des étoiles, le fait que toutes les étoiles ne naissent pas avec la même masse et que cette fonction n'est pas n'importe quoi. Au contraire, elle semble être universelle. Donc on avait ces deux objets, on est capable de mesurer assez proprement la masse des étoiles et de voir qu'elle suit une loi. Via des traceurs du gaz, on est capable de comprendre un peu la structure du milieu interstellaire, mais on n'arrive pas à connecter les deux parce qu'il nous manque une vision qui soit focalisée sur cette étape clé qui est le moment où des nuages, on va passer aux étoiles. Donc le moment où les structures dans les nuages commencent à s'individualiser. Et c'est ce qu'on voit vraiment avec Herschel, c'est-à-dire qu'on voit la structure filamentaire parce qu'elle nous saute aux yeux, et elle est effectivement proprement fascinante parce qu'on peut zoomer, et on la retrouve toujours, jusqu'à ce qu'on touche à la résolution spatiale d'Herschel. Mais après, si on s'amuse à essayer de détecter où sont les objets, ou de reporter les objets que l'on connaît dans cette structure, on va voir qu'ils suivent très naturellement tous ces filaments, et donc c'est dans la physique de ces filaments qu'il va falloir aller comprendre la physique de la formation des étoiles.
Ça va donner du travail aux théoriciens, ça.
Ça va donner beaucoup de travail aux théoriciens, et c'est du travail qui n'est pas simple, parce que vraisemblablement, ça fait intervenir la gravitation, le champ magnétique, parce qu'il y a tout de même la poussière et le gaz sont chargés, même de façon résiduelle, mais ça intervient. Donc oui, ça va donner beaucoup de travail.
Il y a des connexions entre Planck et Herschel, parce que quand on regarde, on voit les images, on se dit, là, c'est un champ que peut pénétrer Herschel, Planck ayant donné la vision grand angle, si je puis dire.
Alors, pour moi qui suis chargé de ce qu'on appelle l'étalonnage d'un instrument, il y a une première connexion qui est absolument évidente, c'est le fait qu'avec Herschel, c'est très difficile d'avoir un niveau absolu de l'énergie qu'on mesure. On travaille toujours en relatif, on va mesurer la quantité d'énergie émise dans une direction par rapport à une autre. parce que même si on fait des grands champs avec Herschel, ces champs ne sont pas très grands, alors que Planck, lui, est capable de nous calibrer de façon absolue, c'est-à-dire de donner de façon absolue la quantité d'énergie émise par unité d'angle solide dans le ciel. Donc il y a une connexion directe là, qui est d'arriver à faire ce qu'on appelle l'étalonnage croisé de Planck et Herschel pour avoir dans Herschel des valeurs absolues de l'émission. Pour ce qui est des objets, je dirais, extra-galactiques, c'est pas tellement important parce qu'on va mesurer leur émission par rapport au fond d'émission qui se trouve à côté, dans lequel on peut légitimement dire qu'il n'y a rien. Mais quand on s'intéresse à notre galaxie, il y a de l'émission partout. Et si on veut calculer des températures, par exemple, de la poussière, eh bien, on a besoin de valeurs absolues de l'émission. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec Herschel. On ne peut l'avoir qu'en comparant les données Herschel aux données Planck et en se recalant.